إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار. أما بعد حياكم الله تعالى en cette soirée du samedi 5 Rajab 1430 correspondant au 26 mai 2012 bi'idhnillah ta'ala. On va continuer donc toujours dans le fameux hadith de Jibril alayhi salam où il est de la salat, naam, parce qu'il voulait l'islam. Il a dit que c'était l'attestation des deux shahadatain, ensuite la salat. Dans le dernier cours, on avait vu que Allah Ta'ala a quelqu'un de guider quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas dans la même salat. C'est-à-dire, il est dans la nafila et celui qui est derrière, il est l'obligatoire. Et on a vu que le contraire aussi était valable. Que par exemple, l'imam faisait une salat et celui qui était derrière lui faisait une salat surérogatoire et donnait les dalils de cette chose-là. Aujourd'hui, la mas'alatu thalitha fi jinsi salat. Hal yushtaratu an tattafiqa salatu al-imam wa al-ma'mum fi naw'i salat. Maintenant, on va voir est-ce que c'est une condition que la salat de l'imam et la salat qui est derrière lui soit yani de la même sorte, soit la même salat. Et d'abord, est-ce que l'imam, s'il fait dhuhr, moi je dois faire dhuhr? Lui, s'il fait asr, moi je dois faire asr derrière lui. Et ainsi de suite. Ou bien non. Ou bien ce n'est pas une condition. Le shaykh dit fi hada aydan khilaf. Dans cette chose aussi, il y a une divergence. Femin al-ulama iman qala yajibu an tattafiqa salatan. Certains savants ont dit qu'il faut. Il faut que les deux prières soient les mêmes. Fayusalli dhuhra khalfa man yusalli. Il doit y salat l'imam qui est en train de faire salat al-dhar. Et il doit prier salat al-asr derrière l'imam qui fait salat al-asr. Et il doit prier salat al-maghrib derrière l'imam qui guide pour salat al-maghrib. Et il doit prier salat al-isha derrière l'imam qui prie salat al-isha. Et il doit prier salat al-fajr derrière l'imam qui guide salat al-fajr. Et ainsi de suite. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. Ils ont cité un dalil, c'est le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم authentique qui dit que justement l'imam a été placé ou bien légiféré, non, il a dit pour qu'on l'imite, pour qu'on le suive dans ce qu'il fait. Il a dit فلا تختلف عليه. Il a dit ne divergez pas avec lui. Donc toi, salat al-dhuhr, et il fait l'asr, ou bien lui il fait l'isha, toi tu fais le maghrib derrière lui, tu n'as pas suivi l'imam et tu as divergé avec lui. Donc par contre d'autres savants wa min al-ulama man qala ishtarat, d'autres savants ont dit ce n'est pas une condition. Fa yajuz an tusalli al-asr man yusalli al-dhuhr. Et donc il est permis d'après cela que tu fasses salat al-asr derrière celui qui est en train de guider pour salat al-dhuhr khalfa man yusalli al-asr. Ou bien, tu pries salat al-dhuhr derrière celui qui est en train de guider les gens pour salat al-asr. Ou l'asr khalfa man yusalli al-isha. Ou bien tu fais salat al-asr derrière celui qui est en train de faire salat al-isha. Ils ont dit, لأن الاهتمام في هذه الحال لا يتأثر. Ils ont dit, car ici le fait de suivre l'imam, naam, ça n'influe pas. On est toujours en train de le suivre. وإذا جاز أن حكم فكذلك اختلاف الاسم لا يضر. Ils ont dit notre dalil, c'est que c'est permis de prier une salat obligatoire derrière quelqu'un qui est prié, qui est en train de prier salat al-Nafila. Vu, si vous vous souvenez, le hadith de Mu'adh, la fois qu'il priait salat al-Isha derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite aller dans un village, ou dans une ville, et qu'est-ce qu'il faisait? Il les guidait, lui, avec la niya que c'est Nafila, et les gens derrière lui que c'est Isha. Donc vous voyez, ils ont fait salat al-Isha derrière quelqu'un qui faisait une nafila. Le cheikh a dit, s'il est permis de prier une salat obligatoire derrière quelqu'un qui prie une salat surérogatoire, il a dit, ici c'est la même chose. Il a dit, c'est la même chose ici. Hein, que tu fasses d'or derrière Asr ou Asr, derrière Maghreb ou là, il a dit, ça ne change rien. Le cheikh rahmallah a dit, Wahad al-Qawl Asah. Il a dit, c'est l'avis le plus juste. Qa'il. Maintenant le cheikh dit, ici quelqu'un va dire, حضرت لصلاة العشاء بعد أن أذن ولما أقيمت الصلاة تذكرت أنني صليت الظهر بغير وضوء. Le cheikh rahmallah dit, si quelqu'un va dire, je me suis présenté pour faire salat l'Isha après l'Adhan. J'ai entendu l'Adhan d'Aïcha, j'ai été donc à la mosquée pour faire salat l'Isha. ولما أقيمت الصلاة, quand la salat allait commencer, نعم, تذكرت أنني صليت الظهر بغير وضوء. J'ai rappelé que j'avais fait. فكيف أصلي الظهر خلف من يصلي العشاء؟ Comment donc je vais maintenant prier salat al-dhuhr derrière l'imam qui va guider les gens pour salat al-isha? Comment je vais faire? نقول له, on va lui dire, c'est le cheikh qui dit, on va lui dire, ادخل مع الإمام وصلي الظهر. Rentre derrière l'imam, hein, rentre les gens derrière l'imam avec la niya que tu vas prier salat al-dhuhr. Et lui, l'imam, qu'est-ce qu'il fait? Il est avec la niya qu'il est en train de guider pour salat al-isha. Anta niyatuka al-dhuhr wa al-imam niyatuhu al-isha wa la yadhur. Toi, ton intention c'est salat al-dhuhr. Et l'imam, son intention c'est salat al-isha wa la yadhur. Il n'y a aucun mal en cela. Et il n'y a aucun mal en cela, dit le cheikh. Il a les actions. يعني دو بار لور انتونسيون. نعم. إلى دي وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. إلى دي كونتا حديث كي سيتي كي دي كو الإمام a été placé justement pour qu'on le suive et qu'on ne doit pas diverger avec lui. Il a dit فلا تختلفوا عليه في النية. Il a dit son sens ce n'est pas, يعني ne divergez pas dans les intentions. نعم. C'est pas sens. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Fabayin, a bien montré et explicité les choses. Qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après avoir cité le hadith, que l'imam, il ne fallait pas diverger avec lui. Il a dit, Fa'ida kabbara, fa'kabbiru. Il a dit, ne divergez pas avec l'imam. Quand il dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar. Wa'ida sajada, fasjudu. Et s'il se prosterne, prosternez-vous. Wa'ida rafa'a, farfa'u. Quand il se lève, levez-vous. Donc le shir dit, ça veut dire, suivez-le sans le suivre, yani sans le devancer. Naam. Il ne faut pas que vous dites par exemple Allahu Akbar avant qu'il ne dise. Ou bien que vous restiez longtemps pour que vous disiez Allahu Akbar. Et ne vous inclinez pas avant qu'il ne s'incline. Ou bien s'il s'incline, ne restez pas longtemps pour que vous vous incliniez, sinon vous ne l'avez pas suivi. Voilà ce que veut dire le hadith. Mais le hadith n'a pas parlé des intentions. Il n'a pas dit si lui il fait salat al-isha, tu dois faire salat al-isha. Comme ça dit le cheikh, rahimahullah. Il a dit maintenant, de cela va découler une autre chose. Une autre chose, laquelle? Ida tafaqat salatan fil adad wal hay'a. Il a dit si maintenant, deux salats qui ne sont pas les mêmes, par exemple, isha et dhuhrullah. Naam. Maintenant, si les deux salats, yani, vont se ressembler dans la façon de les faire et dans le nombre des unités, fala ishkal. Il n'y a aucun problème bi'idhnillahi ta'ala. Comme dhuhr, tu fais salat al-dhuhr derrière l'imam qui fait salat al-asr. Il n'y a aucun ishkal là. Il n'y a aucun problème bi'idhnillahi ta'ala. Pourquoi? C'est le même nombre. Dhuhr 4 unités, asr 4 unités. Naam. Et les deux deux tashahhud, un tashahhud dans la deuxième unité, un tashahhud dans la quatrième unité. Il n'y a aucun problème. Mais, là il faut faire attention. Mais, idakhtalafat salatan. Maintenant, si les salats ne sont pas les mêmes, bi an kanat salat al-ma'moum rak'atayn wal imam arba'an. Par exemple, l'imam est en train de faire une salat de 4 rak'at, comme par exemple salat al-dhuhr ou bien l'asr ou bien l'isha, et toi derrière lui, tu vas faire seulement 2 rak'at, comme par exemple salat al-subh. Tu t'es rappelé que tu n'as pas encore fait salat al-subh, ou bien tu as fait salat al-subh sans les ablutions, ou bien le contraire. Il a dit le shir. C'est-à-dire, toi, tu vas faire 4 et l'imam va faire seulement 2. Il a dit, ou bien, toi, derrière lui, tu vas faire 3 et l'imam va faire 4. Ou bien le contraire, l'imam va faire 3 et toi, derrière lui, tu vas faire 4. 4. Il a dit, c'est ça le problème. Car ça change. Parce que les unités ont changé de la salat. 3 et 4, c'est pas la même chose. Ensuite, Le tashahhud, dans la Isha, il va être dans la deuxième rak'at et la quatrième. Dans le Maghreb, il va être dans la deuxième et la troisième. Le Sheikh dit, on va dire, Inch'Allah ta'ala, fa naqul, in kanat salatul ma'moumi akhtar fa la ishkal. La règle, c'est quoi? C'est, si la salat de celui qui est derrière, pas de l'imam, celui qui est guidé, si la salat de celui qui est guidé, et, yani, disons, contient un nombre d'unités plus grand que la salat de l'imam, il a dit, il n'y a pas de mouchkil. C'est facile et la solution sera simple. Et on va voir comment. À condition que quoi? Que ta salat à toi a un nombre plus grand que la salat de l'imam. Par exemple, lui, il va faire 2 et toi, tu rentres avec la niya que c'est la salat al-maghrib, 3. Ou bien lui, il va faire 3, salat al-maghrib, et toi, tu rentres avec lui avec Salat al-Isha 4. Il a dit, dans ce cas, c'est facile, on va voir comment. Mais le problème, le mouchkila, c'est quand? C'est quand c'est le contraire. Lui, il va faire seulement, lui, il va faire, par exemple, 4, et toi, tu vas faire 2 derrière lui. Ou bien, lui, il fait 3, et toi, 2. Ou bien, lui, il fait 4, et toi, 2. C'est ça le problème qu'on va rencontrer, bi'idhnillah ta'ala. Tayyib. Donc le cheikh, je reprends, il a dit, si la salat de celui qui est derrière, yani, a un nombre ou a des unités, a beaucoup plus d'unités que la salat de l'imam, il a dit, il n'y a pas de mouchkil. Il a donné un exemple, il a dit. Exemple. Rajulun dakhal al-masjid li yusalli al-maghrib. Une personne est rentrée à la mosquée pour prier salat al-maghrib. Non. Quand je dis ça, ça veut pas dire seulement une mosquée, par exemple. Ou bien une femme est rentrée derrière son mari. C'est la même chose ici. D'ailleurs, Rajulun Dakhala, un homme est rentré pour. Il veut prier la salat du Maghreb. Il est allé à la mosquée pour prier la salat du Maghreb. Quand la salat a commencé, il s'est rappelé. Dakara Anna Usalla al-Asr. Il s'est rappelé qu'il avait fait salat al-Asr. Sans ablution. Donc, maintenant, il doit faire quoi? Il doit faire salat al-asr. L'imam, il est en train de faire quoi? Il est en train de faire salat al-maghrib. La prière de l'imam, combien d'unités? 3. Et la prière de cet homme, combien d'unités? 4. Et on a dit que quand la prière de celui qui est derrière est plus grande en unité que la prière de l'imam, il n'y a pas de mouchkil, il n'y a pas de problème. Et c'est le cas ici. Ici, comment qu'on va faire? Il a dit le cheikh, Nakhoul, Utrul ma'ad imam biniyat salat al-asr. Rentre avec l'imam que tu vas prier dans ton intention, c'est salat al-asr. Wa ida sallama al-imam. Donc, vous allez commencer ensemble, ça? Et l'imam, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il va faire salat al-maghrib. À la troisième, il va dire salam alaykum. Ça? Et toi, tu es en train de faire salat al-asr. Il te manque combien? Il te manque une unité. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il dit salam alaykoum, tu dis pas salam alaykoum. Tu te lèves et tu ajoutes une autre rak'at. Et ça, comme dit le cheikh, c'est très simple et il n'y a aucun problème, inshallah ta'ala. Pourquoi? Car la salat de celui qui est derrière a un nombre plus grand que la salat de l'imam. L'imam a fait 3 et toi derrière lui tu as fait 4. Saha, tayyib. Amma idha kan salatu l'imam akthar min salat al-ma'moum. Mais maintenant, si c'est le contraire, c'est la salat de l'imam qui contient plus d'unité que la salat de celui qui va rentrer avec lui. Il a dit, ici on va dire, in dakhala al-ma'moum fi ar-rak'ati ath-thaniya fa ma ba'da fala ishkal. Dans ce cas, si celui qui est derrière va rentrer dans la deuxième unité, pas la première, il arrive à la mosquée, il les trouve à la deuxième unité, ou bien troisième, ou bien quatrième. Il a dit, dans ce cas, il n'y a pas de problème aussi. Pourquoi? Car, yani, les deux salats vont avoir le même nombre. Ou bien la salat de celui qui est derrière, son nombre sera plus grand. C'est pas comme s'il va prendre la première unité avec l'imam. Non. Il a dit, Konta, wa in dakhala fi rak'atil oulas. Mais si maintenant il rentre dans la première unité, il rentre dans la première unité, fahina idin yatil ishkal. Dans ce cas-là, il va y avoir un problème. Il va donner un exemple. Ida ji'ta ul imam yusalli l'isha. Tu vas à la mosquée, tu trouves l'imam en train de faire salat l'isha. Tu vas à la mosquée, tu trouves l'imam en train de faire salat l'isha. Il a dit, wa hada yaqa'u katirin fi ayyam al-jam'. Il a dit ça arrive beaucoup dans les mosquées où on regroupe les salats à cause de la pluie. Il y a beaucoup de mosquées où alhamdoulillah, on fait la sunna, on regroupe les salats quand est-ce à cause de la pluie, par exemple. Et chez les mubtadi'a, chez les chiites, par exemple, etc., ils regroupent les salats tout le temps. Tout le temps. Dhuhr, asr, maghrib, isha, à longueur d'année. Al-sunna ou jama'a, non. Chaque salat en son temps. Sauf quand c'est la pluie, par exemple, on peut regrouper entre les salats dans la mosquée. Taïeb, il a dit maintenant, tu es allé à la mosquée, non, pour prier. Il a dit quelle salat? Non, tu vas à la mosquée, tu les trouves en train de prier Salat l'Isha. Non. S'il les trouve maintenant en train de prier Salat l'Isha, lakin wajadahum yusallun fi rak'atayn akhiratayn, et il les a trouvés dans les deux dernières rak'at de Salat l'Isha. Et lui, il n'a pas encore fait Salat al-Maghrib. Comprenez? Il n'a pas encore fait Salat al-Maghrib et il les a trouvés dans Salat l'Isha dans les deux dernières rak'at. Il a dit, on va lui dire, Utrul ma'hum bi niyyat al-Maghrib. Rentre avec eux, avec la niya de Salat al-Maghrib. Donc, combien tu vas prier avec eux? Deux rak'at. Car ils sont dans les deux dernières rak'at de Salat l'Isha. Donc, tu vas faire deux unités avec les gens de la mosquée. Wa idha sallama al-imam, et maintenant quand l'imam il dit salam alaykoum, il a terminé l'isha, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves et tu ajoutes la rak'a qui te manque. Wa la ishkal, il n'y a pas de problème ici. Vous allez voir quand le problème va commencer. Wa idha ji'ta wa wajadtahum yusallun l'isha al-akhira, lakinnahum fi rak'a thaniya. Mais maintenant si tu es arrivé à la mosquée, tu n'as pas encore fait salat al-maghrib, tu les trouves en train de faire salat l'Isha. Ils ne sont pas à la troisième comme tout à l'heure. Mais ils sont dans la deuxième. Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, Utrul ma'am biniyat al-Maghrib. Rentre avec eux, avec la niya que c'est salat al-Maghrib. Wassallim ma'a l'imam wa la yadur. Wassallim ma'a l'imam wa la yadur. Et quand l'imam termine, tu vas faire le salam avec lui. Et il n'y a aucun problème ici toujours. Pourquoi? Parce que quand tu es arrivé à la deuxième rak'at, ça veut dire il restait trois. Ça veut dire la deuxième, troisième, quatrième. Non. Ça veut dire, et toi tu vas faire le maghreb, donc tu as fait trois avec eux. Trois avec trois, donc il n'y a aucun problème. Le cheikh a dit, mazitta ou la naqast. Tu n'as ni ajouté une unité, ni tu as retranché une unité. Tu as fait trois comme eux. Il a dit, hadha aydan la ishkala fih. Il a dit ça aussi. Il n'y a aucun problème dans ce cas. Non. Innamal ishkal, mais le problème, voilà le grand problème, si tu viens, tu arrives à la mosquée, wa wajadtahum yusallun l'isha wa hum fi rak'a l'oula. Si tu arrives à la mosquée, tu n'as pas fait salat al-maghrib et tu les trouves en train de faire salat l'isha et ils sont dans la première unité. Vous avez compris? Quand ils sont dans la deuxième, troisième, quatrième, il n'y a aucun problème. Mais quand ils sont dans la première unité, il y a la mushkila. C'est quoi la mushkila? Hina idin, c'est tu salli thalatan ma'al imam, puisqu'ils sont dans la première unité. Et toi, tu vas dire Allahu Akbar dans la première unité. Eux, Isha, toi, Maghrib. Eux, Isha, toi, Maghrib. Maintenant, tu vas faire trois rak'at avec eux. Ensuite, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se lever pour la quatrième. Et toi, c'est Salat al-Maghrib. Et Salat al-Maghrib, tu ne peux pas faire quatre rak'at. Alors, qu'est-ce que tu fais? Si tu te lèves avec eux, tu as ajouté une rak'at. Sallaita arba'an. Tu as prié quatre unités. Alors que le Maghrib, c'est seulement trois et pas quatre. Et si tu t'assois, tu ne te lèves pas. Non. Et then, tu as divergé avec l'imam. L'imam, il est debout. Et toi, tu es assis. Car c'est la troisième. Et c'est le Maghreb, tu ne peux pas faire une quatrième. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le shir dit, Ijlis. Le shir dit, reste assis. Reste assis. Wa ida kunta turidu an tajma', reste assis, on va voir. Est-ce que tu as l'intention de grouper la salat avec eux? Hein, car eux, ils sont en train de grouper à cause de la pluie. Ou bien tu n'as pas l'intention de grouper. Maintenant, si tu as l'intention de grouper, qu'est-ce que tu fais? Reste assis. Eux, ils se sont levés pour la quatrième rak'at de la Isha. Toi, tu restes assis. Tu fais teshahud. Tu dis salam alaikum. Et tu te relèves. Et tu redis Allahu Akbar. Avec la niya que maintenant c'est salat l'Isha. Et je suis en train de grouper. J'ai fait le Maghreb. Et maintenant, je suis en train de faire l'Isha. Vous avez compris? Ça c'est dans le cas ou quoi où tu as l'intention de grouper avec eux. Non. Mais maintenant, si tu ne vas pas prier, tu ne vas pas grouper les deux salates. Ou bien, tu es de ceux qui, ça leur est pas permis, par exemple, de grouper la salate. Dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Tu choisis. Tu choisis. Inchita. Fajlis. للتشهد وانتظر الإمام حتى يكمل الركعة ويتشهد وتسلم معه. Tu choisis entre deux choses. Ou bien, eux ils se lèvent pour la quatrième et toi tu t'assois. Qu'est-ce que tu fais? Non, fajlis. للتشهد. Tu fais le تشهد. Non. Et tu attends. Tu attends jusqu'à ce que l'imam et les autres bien sûr descendent pour faire la quatrième. Ils s'assoient. Et dans ce cas, Naam, qu'est-ce que tu fais? Ils font le tashahud et quand ils disent salam alaikum, tu dis avec eux salam alaikum. Ou bien, inshita, ou bien si tu veux, quand tu arrives à la troisième, naam, et eux, maintenant, ils vont se lever pour faire la quatrième, toi, tu fais tahiyat, tu fais tashahud et tu dis salam alaikum. Naam, tu mets l'intention que tu vas les quitter. Tu vas les quitter, naam, et tu sors bi-idnillahi ta'ala de la salat. Tu fais maghrib, naam, tu sors de la salat et eux, ils se lèvent pour terminer la quatrième. Il a dit, Cher, ça c'est l'arjah, inshallah ta'ala, c'est l'arjah. Il a dit, et c'est ce qu'a choisi Cheikh l'Islam bi-idnillahi ta'ala. Si quelqu'un va dire que comment yani, eux, ils se lèvent pour la quatrième et moi je les quitte à la troisième, on va dire, Cheikh a dit ici, tu es dans la darura, tu es dans la contrainte, car c'est pas possible que tu te lèves pour ajouter une quatrième. Ça se fait pas. Donc tu choisis. Ou bien tu restes assis jusqu'à ce qu'ils s'assoient eux et tu fais le salam avec eux. Ou bien, naam, tu fais tout seul tes shahoud et tu les quittes. Tu dis salam et tu les quittes. Naam. Ensuite le shir dit. Et ce qui rentre aussi dans le fait de wa tuqim salat, lorsque Jibril alayhi salam montré au prophète salam comment il y a prié sur le, il lui a demandé le hadith de Jibril. Ça rentre aussi dans le fait yani de bien faire la salat et de la faire correctement, ça rentre arkan salat, les piliers de la salat. Ou l'arkan, les piliers, il y a l'a'mal, ce sont les actions, al-qawliya ou al-fi'liya, ce sont les actions qu'on fait avec les paroles et qu'on fait avec les gestes. Ce sont les actions, disons les paroles et les gestes, les actes qu'on fait et qui, si on ne les fait pas, notre salat devient invalide. On dit de ça un pilier. Non. Le pilier, c'est yani un mot, une phrase, par exemple, un mot comme Allahu Akbar, par exemple, ou bien un geste comme l'inclination, par exemple. Donc, ce sont des choses qui, si tu les fais pas, amdan, exprès, tu dis je fais pas cette chose-là, yani, ta salat devient invalide. Ta salat devient invalide. Il a donné comme exemple takbiratul ihram. Quand tu vas dire Allahu Akbar pour commencer la salat. La yumkin an tan'aqida salat. Il a dit c'est impossible que la salat soit valide s'il n'y a pas Allahu Akbar. Falaw nasiya al-insan takbirat al-ihram. Si maintenant une personne a oublié de dire Allahu Akbar. Ja'a wa waqafa fi as-saff. Il est venu, il s'est mis. Il s'est placé dans le rang. Ou un nasiya, thumma nasiya, il a oublié. Ou shar'a fi al-qira'a. Et il a commencé à dire Alhamdulillah rabbil alamin, rahman rahim. Et jusqu'à ce qu'il termine. Fa salatu ghayru sahiha. Sa salat n'est pas valide. Et ne compte pas du tout. لأن تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلى بها. Car la salat ne peut être valide. Il ne peut avoir lieu sans sa clé. Sa clé, c'est Allahu Akbar. La clé avec laquelle on ouvre la salat, c'est Allahu Akbar. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, il a cité ici, il a dit, إذا قمت إلى الصلاة, si tu te lèves pour la salat, فأسبغ الوضوء. Essaye de faire convenablement les ablutions. ثم استقبل القبلة. Ensuite, mets-toi en face de la qibla, فكبر. Et dis Allahu Akbar. Donc, فلا بد من تكبير. Donc, c'est obligé de dire Allahu Akbar. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مداوما على ذلك. Et le prophète صلى الله عليه وسلم le faisait tout le temps. Jamais il n'a délaissé une fois dans sa vie de dire Allahu Akbar, yani dans la prière. ومن ذلك, ça rentre aussi dans les piliers de la salat, qira'atul fatiha, le fait de lire alhamdulillah al-fatiha, alhamdulillah rabbil alamin. Sauf, comme vous savez, pour quelqu'un qui est débutant, qui n'apprend pas le fatiha, il lui est permis de dire subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, comme vous savez, jusqu'à ce que il apprenne le fatiha bi'idhnillahi ta'ala. Le cheikh dit donc le fatiha, la sourate le fatiha, c'est un pilier. Il n'y a pas de salat sans la Fatiha. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, sourate Al-Muzammil, verset 20, il a dit Faqra'u ma tayassara min Qur'an. Récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Ce qui vous est possible du Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que le verset ici, lorsque Allah Ta'ala dit lisez ce qui est possible, il a dit ce qui est possible, ça veut dire le Fatiha. Car le Fatiha, c'est possible à tout le monde. Ensuite, le prophète a dit, la salat, il n'y a pas de salat pour celui qui ne lit pas le Fatiha. Il n'y a pas de salat pour celui qui ne lit pas le Fatiha. Dans un autre hadith, man salla salat lam yiqra fiha al-Fatiha, lam yiqra fiha bi umm al-Qur'an, fa ya khidaj. Toute salat dans laquelle on ne lit pas avec sourate al-Fatiha, il a dit, elle est quoi? Elle est manquante, 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 trois fois. Manquante, ça veut dire nulle. أي فاسدة نعم غير صحيحة إذن فقراءة الفاتحة ركن دونك إلا دي le fait de lire سورة الفاتحة c'est un pilier إلا دي que ça soit pour l'imam ou pour celui qui est guidé derrière lui ou pour la personne qui est seule et qui prie à la maison par exemple c'est quoi c'est un pilier إلا دي car les textes qui sont venus pour parler de la Fatiha sont, yani, sont venus d'une façon globale. Et il a dit, لم يستثني الله تعالى ولا رسوله. Le prophète sallam, ni Allah Ta'ala n'ont fait des exceptions. N'ont dit que, sauf dans tel ou tel cas. Mais partout, à chaque fois, quand on prie, il faut le Fatiha. Il faut le Fatiha. D'ailleurs, Allah Ta'ala dit dans le Coran, النحل 89 il a dit ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses explicite يعني qui montre bien et clairement les choses ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح في سقوط الفاتحة المأموم il a dit il n'y a aucun hadith authentique du prophète عليه الصلاة والسلام clair qui montre par exemple que celui qui est derrière l'imam ne doit pas lire Al-Fatiha. Il a dit, la fi sirriya ou la jahriya, que ce soit dans la salat qui est à haute voix ou la salat à voix basse. Dans les deux cas, il a dit, l'imam doit lire Al-Fatiha. Lakin al-farq, mais la différence entre la salat à voix basse et la salat à voix haute, c'est que dans la salat à voix haute, naam, la taqra fiha illa al-Fatiha. Tu lis seulement al-Fatiha, ensuite t'escoutes, tu te tais et tu écoutes la récitation de l'imam, ce qui est en train de lire après al-Fatiha. Quant à Syria, quant à dans la salat à voix basse, tu lis al-Fatiha et autre chose avec elle, jusqu'à ce que l'imam s'incline. Jusqu'à ce que l'imam s'incline. Il a dit, Cheikh Rahimullah, Lakin dallati sunna ala annahu yustathna min dalika ma ida ja'a al-insan l'imam raka'a. Il a dit, il y a une seule exception. Une seule exception dans la salat où quelqu'un ne lit pas le Fatiha. Une seule. C'est laquelle? Si jamais quelqu'un arrive dans un groupe, ou dans une mosquée, ou dans un groupe, et tu trouves que l'imam et les gens se sont quoi? Se sont déjà inclinés. Maintenant, si tu viens et tu trouves les gens inclinés, tu t'inclines seulement. Tu dis Allahu Akbar et tu t'inclines. Et qira'atul Fatiha n'est plus obligatoire dans ce cas. Le fait de lire le Fatiha n'est plus un pilier. Le dalil, c'est quoi? Ce qu'il y a dans le Bukhari. Dans le Bukhari. D'après le hadith de Abi Bakra, radiyallahu ta'ala, un sahabi qui s'appelle Abu Bakra, et c'est pas Abu Bakr Siddiq, un autre, Abu Bakra, radiyallahu ta'ala, anhu, que il est rentré à la mosquée, où le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, raka' fi al-masjid. Il a trouvé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, incliné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Allahu Akbar. Ensuite, fa asra', il a vite fait, quoi, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est incliné avant de rentrer dans les rangs. Il s'est incliné tout seul avant de rentrer dans les rangs. Ensuite, il est rentré dans les rangs. Falamma Rasul sallallahu alayhi wa sallam a terminé la salat, il a dit Ayyukum alladhi raka'a duna as-saff thumma masha ila as-saff. Il a dit qui la personne d'entre vous qui a quoi? Qui a fait, qui s'est incliné avant le rang. Ensuite, a marché tout en étant incliné, ensuite est rentré dans le rang comme ça. Ce qui prouve que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit dans un hadith authentique, que quand il priait, il voyait les gens derrière lui. Subhanallah al-Azim. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait cette particularité, l'une bien sûr des particularités qu'il avait. Quand il priait, il voyait tout ce qui se passait derrière lui. Subhanallah al-Azim. C'est comme s'il y avait, si Allah Ta'ala lui avait mis un miroir, un grand miroir en face de lui. Il prie et il voit ce qui se passe derrière lui. Et nous, subhanallah al-Azim, nous, si on mettait un grand miroir pour l'imam, on lui met un grand miroir en face de lui pour qu'il voie les gens, ce qu'ils sont en train de faire derrière lui, ce serait pas bien. Ça, car, yani, il va perdre la salat. Il va plus savoir ce qu'il est en train de faire. Il vient de voir celui-là qui est rentré, celui-là qui dit salam, celui-là qui, je sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc, l'imam lui-même, il va plus savoir ce qu'il est en train de faire de la salat. Il n'aura ni khushu ni rien. C'est une rahma donc qu'on ne voit pas ce qui se passe derrière nous. Elle-même. Alors le prophète, quand il a demandé qui s'est incliné comme ça et est rentré dans les rangs derrière nous en s'inclinant, Abu Bakr lui a dit, c'est moi, ya Rasulallah, c'est moi. Que lui a dit le prophète, il lui a dit, زادك الله حرصا ولا تعود. Puis Allah subhanahu wa ta'ala t'ajouter dans le fait d'être soucieux dans ta salat. Mais ne refais plus cette chose. La ta'oud. Remarquez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il veut dire à quelqu'un qu'il a fait une chose qui ne se fait pas, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a pas dit ne fais pas, ne refais plus ça et puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'ajouter dans la souciance. Mais il a commencé par lui faire des doigts. Il lui a dit Zadak Allahu hirsan. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'ajouter de la souciance dans la salat. Puisse Allah ta'ala t'ajouter de cette chose. Ensuite il lui a dit mais ne refais plus ce que tu as fait aujourd'hui. C'est le يعني le comportement parfait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Car le prophète, dit anna nabi sallam, alima a su anna alladhi dafa'a Abu Bakr, que ce qui a poussé Abu Bakr à ce qu'il fasse comme ça, naam, avant qu'il n'arrive au rang, c'est-à-dire 5 lignes avant d'arriver au rang, c'est quoi? C'est parce qu'il voulait, il voulait quoi? Il voulait que cette raka'a, cette unité, ne passe pas. Ne passe pas, c'est-à-dire ne parte pas. Il voulait, yani, que cette unité compte aussi pour lui. Donc, on prend quoi d'ici? On prend que si quelqu'un rentre dans la salat et il trouve l'imam incliné, il dit Allahu Akbar, il s'incline, il rentre avec lui, donc cette salat, cette unité, va compter. Ça veut dire que cette unité compte pour moi. Naam. Tayyib. Et ici, qu'est-ce que. Pourquoi on a dit ça? On a dit ça pour dire, le témoin du cours, que le prophète ne lui a pas ordonné de refaire cette unité alors que Abu Bakr n'avait pas lu le Fatiha. Est-ce qu'il a lu le Fatiha Abu Bakr? Non. Il a dit Allahu Akbar, il s'est incliné, il a marché comme ça pour entrer dans les rangs, sans lire le Fatiha. Donc, c'est l'un des endroits, ou peut-être l'unique endroit, où dans la salat, c'est permis de ne pas lire le Fatiha. Quand on arrive, on trouve l'imam incliné. On trouve l'imam incliné. Non. Il a dit. Donc, il a dit si le prophète ne lui a pas dit que tu dois refaire cette unité, ça veut dire que cette unité est valable. On prend de ça que, donc, elle a été valable, cette unité, même sans la récitation de l'Fatiha. Et pourquoi? Il a dit, il y a même un autre délil, pour dire que ce n'est pas permis de lire l'Fatiha ici, que ça ne se lit pas. Quel est l'autre délil? Un délil de la raison. C'est quoi le délil? Il a dit, wa huwa anna al-Fatiha. Al-Fatiha, le fait de lire sourate al-Fatiha, ça devient obligatoire avec quoi? Avec le lever. C'est-à-dire quand on est debout. Quand on est debout. Et ici, en rentrant dans la mosquée, si on trouve les gens inclinés, l'imam incliné, on est obligé de s'incliner pour suivre l'imam et l'imiter. Donc maintenant, s'il n'y a plus le fait de se mettre debout, donc, il n'y a plus le fait de lire Al-Fatiha. Car Al-Fatiha ne se lit que debout. Vous avez compris? Al-Fatiha, on ne peut pas la lire assis. On ne peut pas la lire inclinée. On ne doit la lire qu'en étant debout. Et ici, je ne suis plus debout. Je me suis incliné. J'ai trouvé les gens inclinés, je me suis incliné. Donc, c'est un autre dalil de la raison que Al-Fatiha n'est pas obligatoire, bi'idhnillahi ta'ala. Il a dit, أما ما زاد عن الفاتحة. Il a dit, maintenant dans la salat, à part le Fatiha, فهو سنة. Le Fatiha c'est un pilier. Mais à part le Fatiha, ce que tu ajoutes, nous on lit le Fatiha plus قل هو الله أحد, on lit le Fatiha plus والعصر, on lit le Fatiha plus. N'importe quelle sourate, Baqara, tout ça c'est seulement sunna. C'est seulement sunna, c'est pas obligatoire. C'est seulement sunna. Non. C'est seulement sunna dans la première unité et dans la deuxième. Quand c'est par exemple 4, comme Dhuhr, Asr, Isha. Quant à dans la troisième unité, pour Salat al-Maghrib, ou bien la troisième et quatrième unité pour Salat al-Dhuhr ou l'Asr ou l'Isha, il a dit ce n'est pas sunna de lire quelque chose après le Fatiha. Il a dit on lit seulement le Fatiha. Wa in qara'a ahyanan fil 'asr wal dhuhr, mais si maintenant de temps en temps la personne va lire des choses, va lire des sourates dans la troisième unité et la quatrième, il a dit fala bas, c'est permis. Non. Mais quand il dit c'est pas sunna, c'est-à-dire on ne doit pas le faire tout le temps. Mais s'il le fait de temps en temps, de lire dans la troisième et quatrième unité quelque chose après le Fatiha, c'est possible. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même le faisait, comme le hadith se trouve dans Sahih Muslim. que dans Salat al-Dhuhr, il lisait dans la première et deuxième raka'a l'équivalent de 30 versets. Et dans la troisième et quatrième de sourate de la fin de Dhuhr, il lisait 15-15. Et dans Salat al-Asr, il lisait dans la première et deuxième 15-15. Et dans la troisième et quatrième, il lisait 7 ou 8 rak'at, 7 ou 8 versets. Donc ce qui est une preuve que quoi? Que on peut ajouter après le Fatiha dans la troisième et quatrième. Mais on ne le fait pas tout le temps, on le fait de temps en temps, c'est tout. Et c'est aussi une preuve que quoi? Que ceux qui disent que si jamais on récite du Coran après le Fatiha, dans la troisième et quatrième, on doit faire des prosternations pour avoir ajouté, que cela se trompe. Donc cela se trompe. On dit c'est permis de réciter après le Fatiha dans la troisième et quatrième raka'a. C'est permis de le faire de temps en temps. Si c'est pas sunna de le faire tout le temps, mais c'est permis, c'est une sunna de le faire de temps en temps. Donc si quelqu'un dit, tu as ajouté, donc tu dois faire des sujouds de prosternation, on lui a dit, tu te trompes. Va lire et apprendre la sunna du prophète sallam, comme dans le hadith authentique qui se trouve dans Sahih Muslim, qui vient juste après Sahih al-Bukhari. Ensuite, le cheikh dit, wa min arkan salat, et toujours dans les piliers de la salat, ruku', l'inclination. L'inclination, c'est quoi? C'est un pilier de la salat. Quand on dit un pilier, ça veut dire si tu ne le fais pas, ta salat est nulle. Il a dit, et l'inclination, c'est le fait de s'incliner, ta'ziman lillah azza wa jal. On s'incline pour glorifier Allah subhanahu wa azza wa jal. Ce n'est pas on s'incline pour faire du sport, ni pour s'incliner. Mais je m'incline pour montrer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et combien je suis petit, combien je suis nul, combien je ne vaux rien. Je ne vaux rien. C'est pour cela que les savants interdisent toutes sortes d'inclinations. Même dans le sport. Même dans le sport. Tu veux t'incliner juste pour faire le karaté ou je ne sais pas quoi. Les savants ont dit c'est interdit. C'est interdit. L'inclination ne peut être que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais pour un être humain. Et encore, c'est pire pour le karaté. Pourquoi? Parce que pour le karaté, quand tu vas t'incliner, c'est pas pour ton adversaire. C'est ça le problème. Si c'était pour l'adversaire, déjà c'est grave. Tu vas t'incliner pour un homme. Mais tu vas t'incliner pour. Je ne sais pas comment il s'appelle leur grand chef, leur Manitou. Je ne sais pas comment il s'appelle là-bas. Celui qui, c'est comme leur Bouddha. Celui qui a inventé ce sport, cet art martial. Celui qui l'a inventé. Donc eux, quand ils s'inclinent, c'est pour commémorer. Pour commémorer, et ne pas oublier leur grand chef, le grand Manitou qui a inventé le karaté ou je ne sais pas quoi. Donc on a beau dire que c'est pas vrai, je m'incline juste pour faire le sport, pour ceci, pour cela, les savants ont dit non. Ou bien tu t'inclines pas du tout, ou bien tu fais pas ce sport. Va faire le tennis. Non, va faire le tennis ou le tennis de table. Il n'y a pas aucune inclination. Non. C'est pas les savants qui ont dit va faire le tennis, hein. C'est moi qui l'ai dit juste pour dire qu'il n'y a pas d'inclination. Peut-être les gens vont vite aller acheter avec la. C'est permis de jouer au tennis de table, entre parenthèses. Mais, là, j'ai cité comme exemple, c'est tout. Voyez. Il a dit que quand on s'incline dans la salat, on s'incline pour la grandeur de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète a dit Amma ruku' fa'azzimu fihi Rabb azza wa jal. Il a dit, quant au ruku', quand vous êtes dans le ruku', glorifie Allah Azza wa Jal le puissant. Qu'est-ce que ça veut dire glorifier Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire, il a expliqué dans un autre hadith, c'est-à-dire, dites Subhan Rabbi al-Azim, Subhan Rabbi al-Azim, Subhan Rabbi al-Azim. Ou Subhan Rabbi al-Azim wa bihamdi. Subhan Rabbi al-Azim wa bihamdi. Et comme ça. Et quand tu dis Subhan Rabbi al-Azim, ou Subhan Rabbi al-Azim wa bihamdi, tu as fait quoi? Tu as fait le ta'zim. Tu as glorifié Allah subhanahu wa ta'ala de par quoi? De par tes paroles. Donc, fayishtami' ta'ziman. Donc, on va avoir deux ta'zim. Naam, deux glorifications qui vont quoi? Qui vont se regrouper. La première glorification, le fait de t'être incliné. Et la deuxième, le fait d'avoir dit. D'avoir dit avec quoi? Avec les paroles. Donc, en fin de compte, il y aura trois sortes de glorification. Ta'zimat thalatha. La première glorification, la glorification du cœur. Tu as glorifié Allah subhanahu wa ta'ala avec ton cœur. La deuxième, tu l'as glorifié avec les gestes, avec ton corps, en t'inclinant. La troisième, tu l'as glorifié avec ta langue, en disant Subhan Rabbil Adim. Naam. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit, et maintenant quand tu t'inclines, quand quelqu'un va s'incliner, il doit s'incliner au point où il doit toucher avec ses mains, il doit toucher ses deux genoux. Avec ses deux mains, il doit quoi? Toucher et prendre, disons, ses deux genoux. Il a dit, si tu t'inclines juste un peu comme ça, non, sans toucher tes genoux avec tes mains, ou bien tu as touché tes genoux avec tes mains, mais tu as fait juste descendre un peu ta tête, tu t'es pas incliné. Mais tu dois faire comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, t'incliner l'âme jusqu'à ce que si on mettait un verre plein d'eau sur ton dos, yani, rien ne tomberait de ce verre. Rien ne tomberait de ce verre. Et beaucoup de gens, l'âme, quand ils s'inclinent, ils ne peuvent pas arriver à ce qu'on est en train de dire là, à bien s'incliner de façon à ce qu'il y ait avec les jambes. Le corps et le dos, avec les deux jambes, il doit faire un angle droit, 90 degrés. Subhanallah al-Azim. 90 degrés. Un angle droit. Naam. Un angle droit à 90 degrés. Beaucoup de gens ne peuvent pas faire cela. Pourquoi? Car quand ils s'inclinent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu de lever un peu la tête, lever le cou, pour qu'il soit droit avec le dos, naam, et voir. Fixer avec les yeux l'endroit où on va se prosterner. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont descendre le cou vers le bas. Et regarder, yani, en face d'eux, vers le bas. Au lieu de regarder vers l'avant, où on va se prosterner, ils regardent juste en bas. Ou alors, pire, ils regardent entre leurs jambes. Ils regardent un peu entre leurs jambes. Ça va donner quoi? Automatiquement, ça va donner une courbe dans ton dos. Tu as courbé ton dos. Donc, si tu as courbé ton dos, yani, on ne va pas dire que ta salat est nulle. On va dire que tu n'as pas fait un bon rukou. Tu n'as pas fait l'inclination que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Par contre, tu dois yani, tendre ton cou vers l'avant et regarder l'endroit où tu vas quoi? Où tu vas te prosterner bi'idhnillahi ta'ala. Tayyib. Et quand quelqu'un pose ses deux mains sur les genoux, il ne doit pas fermer ses mains, mais il doit ouvrir ses mains sur les genoux. C'est comme si il prenait les genoux. Comprenez, c'est comme s'il s'agrippait à ses deux genoux. C'est comme ça qu'on fait quand on est incliné. Beaucoup de gens, quand ils s'inclinent, il pose seulement les mains sur les genoux. Ou bien, il ferme les mains des doigts étant sur les genoux. Alors que sur les genoux, tu dois ouvrir les mains des doigts pour pouvoir te cramponner. C'est comme si tu prenais, imaginez quand on prend deux petits ballons, yani le ballon du tennis, on revient au tennis, tu le prends dans la main. Tu es obligé d'ouvrir yani, tes doigts pour le prendre. La même chose quand tu mets tes deux mains sur les genoux. C'est comme si tu t'agrippais, tu te cramponnais à tes deux genoux. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Et tes bras ne doivent pas toucher tes côtes quand tu es incliné. Tes bras doivent s'éloigner de tes côtes. Tes côtes à droite et tes côtes à gauche ne doivent pas être collées avec tes bras. Mais tes bras doivent être loin de tes côtes et... Il dit et il répète Subhanak, par exemple Subhanak Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma khfirli Subhanak Allahumma. اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وبيان دي دوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اي كوم سا اي دون لي بيلي دون لي بيلي دو لا صلاه يا اوسي لو سجود. لو سجود c'est-à-dire la prosternation. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, sourate al-Hajj, verset 77, il a dit « Ya ayyuha alladhina amanu rka'u wa sjudu wa'budu rabbakum » Oh les croyants, là où vous les croyants, « Irka'u, inclinez-vous, wa sjudu » et « prosternez-vous, wa'budu rabbakum » et quoi ?« Adorez votre Seigneur, adorez votre Seigneur. » Wa qala al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. أما أوردوني، quand je dis أما أوردوني، ça veut dire الله تعالى ما أوردوني. أما أوردوني que je me prosterne sur sept os. Au pluriel de os. Sept os. On doit se prosterner sur sept os. Le premier, c'est quoi? Le front. Et lorsqu'il a dit, à l'essentiel, il a dit le front, il a montré, il a touché avec son doigt son nez. Donc, le premier os, dans le premier os, entre deux os, deux, le front, l'os du front et l'os du nez. Parce que beaucoup de gens, malheureusement, quand ils se prosternent seulement avec le front et leur nez ne touche jamais la terre ni le tapis. Celui-là, il a fait une grande faute. Il n'a pas prié sur cet os. Il est obligé quand il se prosterne, de faire toucher son front à la terre et en même temps son nez. Car si tu lèves ton nez, tu lèves seulement le front, tu ne t'es pas prosterné, la prosternation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc n'oublie pas ton nez avec le front. Et ce n'est pas possible aussi de, par exemple, de se prosterner avec le nez seulement, sans faire toucher le front. Mais il faudrait que les deux touchent, le front et le nez. Tout ça c'est quoi? C'est un os. Ensuite, il a dit, je pose les deux mains. Je pose les deux genoux. Ça fait quatre. Et les deux pieds. Les orteils des pieds. Ça fait six. Et le premier, c'est-à-dire le front et le nez, ça fait sept. Et tu dis quoi? Tu dis, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la. Tayyib. Quand on est prosterné, la faute que font beaucoup de gens, par exemple, par rapport aux doigts, les doigts de la main, ils doivent être, yani, joints et non pas éparpillés. Contrairement à quoi? À l'inclination. On a dit que dans l'inclination, quand je suis incliné, mes doigts sont ouverts sur mes genoux. Sont ouverts sur mes genoux, éparpillés. Mais quand je suis prosterné, mes doigts sont collés l'un à l'autre. Ils ne sont pas ouverts. Et la deuxième faute que font beaucoup de gens, et c'est plus grave que la première, qu'est-ce qu'ils font? Quand il est prosterné, il a les doigts des mains, qui la droite, la main droite, les doigts tournés vers la droite, et la main gauche, les mains tournées comme ça vers la gauche. Alors que la sunna, c'est quoi? C'est, comme a dit le prophète sallam, il a dit staqbil bi yadayk al-qibla, staqbil bi asabi'ik al-qibla. Ça veut dire que quand tu es prosterné, tes doigts, les doigts de la main qui sont collés, doivent être en face de la qibla. Eux aussi, tes doigts aussi doivent yani, être en face de la qibla et ne pas quitter la qibla. Car si tu tournes ta main à droite et l'autre à gauche, là, tes doigts ne sont pas la qibla. La salade vide, mais quoi? Monte et devant toi qui a prié, il a fait de sorte que ses mains, ses doigts de ses mains étaient en face de la Qibla, il a plus de récompense que toi. Et la même chose pour les doigts des orteils, les doigts, il y a nos orteils, les doigts de nos pieds qui sont derrière nous, si on peut. On les met aussi en face de la Qibla, surtout quand on fait le tashahhud bi'idhnillahi ta'ala. Al-Muhim, le Cheikh dit, rahmallah, wa ta'ammal al-hikma. Il a dit, le Cheikh, rahmallah, wa ta'ammal al-hikma. Il médite. médite sur la sagesse que lorsque tu es dans lorsque tu es dans le ruku', l'inclination, tu dis Subhan Rabbi al-Azim. Et quand tu es dans le sujoud, dans la prosternation, tu dis Subhan Rabbi al-A'la. Pourquoi? Pourquoi quand tu es prosterné, quand tu es incliné, tu glorifies Allah Ta'ala, tu dis Subhan Rabbi al-A'la. Et quand tu es prosterné, Rafoun, tu dis Subhan Rabbi al-Azim quand tu es incliné, et quand tu es prosterné, tu dis Subhan Rabbi al-A'la. Pourquoi? Car quand tu es incliné, on a dit que il fallait glorifier Allah Azzawajal et dire yani Subhan Rabbi al-Azim, Subhan Rabbi al-Azim, Subhan Rabbi al-Azim. Mais maintenant, quand tu t'es prosterné, tu as fait descendre yani tout ce que tu as de plus honorable. C'est quoi? C'est le visage. C'est pour ça que c'est interdit de frapper quelqu'un sur le visage. C'est interdit en islam, par exemple, de gifler quelqu'un. Vous savez ça. Voyez. Car Allah Ta'ala a créé Adam sur son image. Al-Muhim, maintenant, tout ce que tu as de plus honorable, qui est ton visage, et surtout le front, que tu ne dois jamais dans ta vie poser par terre que pour Allah Subhanahu wa Ta'ala. Regarde, donc ce front, tu vas le mettre maintenant à même, c'est-à-dire au même niveau que tes pieds. Car ton front va descendre, rejoindre tes pieds. Maintenant, ton front et tes pieds, subhanallah, ton front est descendu. Yani, tu l'as humilié pour Allah subhanahu wa ta'ala au point de le mettre à même, yani, au même niveau que tes pieds. Tes pieds. Les pieds, c'est toujours, yani, on dit, là, les pieds, ça, il m'a frappé un coup de pied, ceci, ceci. Toujours les pieds, c'est pas quelque chose de bien. Comparé au visage, bien sûr. C'est pour ça, on peut frapper quelqu'un à ses pieds, il fouetter ses pieds, jamais lui toucher son visage. Maintenant, ton visage, le plus humble, yani, la plus humble partie de toi, va rejoindre tes pieds, et là-bas, en descendant, et que tu es maintenant au plus bas, yani, de ta position, tu vas dire, Subhan Rabbi al-A'la, tu vas dire, je reconnais Allah subhanahu wa ta'ala que tu es le plus haut. Subhanallah al-Azim. En reconnaissant, de par le fait que tu t'es prosterné, que tu es le plus bas, tu reconnais en même temps, en parlant avec tes paroles, que Allah Ta'ala est le plus haut, au-dessus de toutes ses créatures, au-dessus du trône, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tayyib, qu'est-ce qu'il a dit? Et il a dit, ou bien tu dis Subhan Rabbi al-A'la, bien sûr, ou bien tu dis Subhan Rabbi al-Ali, ou bien tu dis Subhanak Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma aghfir li, ou bien tu dis Subuh Quddus Rabbul Malaikati wa Ruh. Al-Muhim, tu changes de temps en temps. Pourquoi? Pour vivifier la sunna. Sinon, tu vas oublier la sunna. Tu vas croire que la sunna, c'est toujours Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-A'la. Tu changes jamais. Mais en changeant, naam, en disant de temps en temps Subuh Quddus Rabbul Malaikati, en disant Subhanak Allahumma bihamdika Subhanak Allahumma Rabbana wa bihamdika Rabbana aghfir li Allahumma aghfir li, et comme ça en même temps tu casses la routine. Sinon ça devient de la routine, tu dis des choses comme ça sans savoir ce que tu es en train de dire. Là tu as cassé la routine, en même temps tu vivifies la sunna pour que la sunna ne meure pas, pour que les autres invocations ne meurent pas. Elles sont là présentes, en même temps ceux qui t'entendent vont apprendre de toi, vont apprendre que, alhamdoulilah, il y a d'autres choses qu'on ne savait pas. Al-Muhim. Et le prophète a dit, Afoun, ensuite le Sheikh a dit, et quand tu fais les tesbih dans la prosternation, il a dit ensuite, demande à Allah subhanahu wa ta'ala des choses. Car le prophète a montré que, il a dit que, c'est l'endroit où on est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'endroit où on est le plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand on est dans la prosternation. C'est pour ça qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans le sujoud, faites des efforts pour les doigts, pour les invocations. Il a dit, c'est très fort, il y a de fortes faveurs que, inshallah ta'ala, Allah ta'ala va vous exaucer. Il a dit, car c'est l'endroit où vous êtes le plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le shirk dit, فأكثر من دعاء بما شئت. Il a dit, alors fais des doigts dans tout ce que tu veux. سؤال الجنة, demande à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver de l'enfer. اطلب من الله سبحانه وتعالى, il a dit la science utile. Demande à Allah ta'ala qu'il t'aide à appliquer. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala une foi forte. Il a dit et ainsi de suite. Demande à Allah ta'ala, le cheikh dit toujours, demande à Allah ta'ala une maison, une belle maison, Baytun Jamil. Demande à Allah ta'ala Imra'a Saliha. Demande à Allah ta'ala une épouse, yani Saliha, une épouse qui est bien, disons une épouse qui est pieuse. Naam. Walad Salih, demande à Allah ta'ala de te donner des enfants qui sont pieux. S'ils sont pas bien, demande à Allah ta'ala de, yani, disons, de les réparer, si je puis dire, naam, de les corriger de leur comportement pour qu'ils deviennent bien. Vous savez maintenant, c'est difficile. L'époque où on vit, c'est vraiment, 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 vraiment difficile, yani, que les enfants soient comme on veut. Que les enfants soient comme on veut. Nous, on est dans un pays musulman. Moi, je suis imam et j'ai mille et une difficultés avec les enfants. Je me demande avec d'autres, yani, qui ne sont ni imams ni rien et qui sont dans des pays de kofr. Et malgré cela, il y en a qui sont mille fois mieux que nous. Mille fois mieux que nous. Al-Muhim, il a dit, demande à Allah Ta'ala une voiture. Siyara, demande à Allah Ta'ala qu'il te donne une voiture si tu n'en as pas. Ou un mashi'at, il demande ce que tu veux des biens de cette dunya et de l'au-delà. Khair din ou khair dunya. Demande de tous les biens de l'au-delà et des biens de cette dunya. Li anna du'a ibada. Car l'invocation en elle-même